Les infos à Washington.
Au micro, Nani Tetalani, il est 13h en temps universel. Bienvenue au journal. Au Rwanda, le parti d'opposition FDU annonce la libération d'un de ses responsables. C'est ce qu'a déclaré un de ses membres après une arrestation qu'il qualifie d'enlèvement. Nous dénonçons un enlèvement car il n'a jamais reçu aucun mandat d'arrêt formel. C'est ce qu'a déclaré Boniface Twangirimana, le vice-président des forces démocratiques unifiées. Mardi, le numéro 2 des FDU avait dénoncé l'arrestation dimanche soir du responsable local du parti à Kigali par des militaires dans le quartier de Nyarutarama, dans la capitale. Théophile Ntirutoa a déclaré à l'AFP avoir été détenu, les yeux bondés pendant 2 jours dans un lieu inconnu et avoir été interrogé à plusieurs reprises sur ses liens avec différents leaders de l'opposition non légale, dont ceux des FDU, mais aussi ceux du parti en exil du Congrès national rwandais. Le RNC est composé d'anciens compagnons de lutte du président Paul Kagame qui les accuse aujourd'hui d'être des terroristes et des traîtres. Le porte-parole de la police rwandaise a démenti l'arrestation de l'opposant et assuré que M. Ntirutoa ne faisait l'objet d'aucune enquête. Nous ne l'avons jamais détenu dans nos cellules, a déclaré Célestin Ntouaria. Dans un communiqué, le FDU avait donc dénoncé la volonté du FPR, le Front patriotique rwandais au pouvoir, de continuer à harceler les opposants pour les faire complètement taire en amont de la présidentielle de 2017. Plusieurs partis d'opposition, dont le FDU, ne sont pas reconnus par les autorités qui les considèrent comme les ennemis de l'État. L'ONG Human Rights Watch estimait en février que la plupart des personnalités en vue de l'opposition ont quitté le pays ou sont emprisonnés ou ont abandonné leurs activités politiques. En RDC, la situation s'apaise à Kinshasa. La vie a repris son cours presque normal ce mercredi matin dans la capitale après 2 jours de pillage et d'affrontements meurtriers entre forces de l'ordre et jeunes réclamant le départ du président Joseph Kabila. Le bilan de ces violences ayant fait au minimum une vingtaine de morts était encore impossible à établir précisément. L'opposition parle d'une cinquantaine de morts alors que le gouvernement fait état de 17. Le porte-parole de la police devrait s'exprimer à la mi-journée sur la télévision publique. Dans les quartiers sud et centre de la capitale de la RDC, les plus touchés par ces affrontements violents, les transports en commun ont fonctionné de nouveau ce mercredi selon des journalistes de l'AFP. La circulation était néanmoins plus fluide qu'un jour normal dans cette mégapole de 10 millions d'habitants habitués aux embouteillages. Les vendeurs à la sauvette qui avaient disparu pendant 2 jours déambulaient de nouveau leurs marchandises sur la tête. Les pompes à essence et les boutiques ont majoritairement rouvert. Mais par contre, pas d'écoliers visibles dans les rues, les parents préférant les garder un troisième jour à la maison pour s'assurer que le calme est vraiment bien rétabli. Les violences les plus meurtrières depuis les émeutes ayant frappé la capitale en janvier 2015 ont éclaté lundi matin en marge d'une manifestation organisée par un rassemblement d'opposition à 3 mois de la fin du mandat de M. Kabila pour lui signifier son préavis et exiger son départ le 20 décembre. La Constitution interdit à M. Kabila au pouvoir depuis 2001 de se représenter, mais le chef de l'État ne donne aucun signe de vouloir quitter son poste alors que le scrutin présidentiel apparaît désormais impossible à organiser dans les temps. Les autorités et les dirigeants d'opposition se sont renvoyés mutuellement la responsabilité des violences qui se sont muées mardi en une multitude d'échafaudés opposant des jeunes à des policiers renforcés par des soldats. L'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda, en grève de la faim depuis presque 2 semaines, a recommencé à s'alimenter d'après son avocat devant la Cour pénale internationale. L'accusé, qui avait assuré lors d'une déclaration être prêt à mourir, avait entamé sa grève de la faim pour protester contre ses conditions de détention et accuse la Cour de ne pas lui accorder un procès équitable. Il n'est pas apparu devant les juges de la CPI depuis le 7 décembre. Anne Albertson.
L'ancien chef rebelle s'inquiétait de ne plus avoir aucun espoir de voir ses enfants dans des conditions normales parce que les juges avaient refusé de lever les restrictions imposées sur ses contacts avec l'extérieur après des inquiétudes au sujet d'intimidation présumée de témoins. L'ancien chef de guerre congolais était le premier accusé à avoir jamais entamé une grève de la faim dans les prisons de la CPI. Bosco Ntaganda avait plaidé non coupable de 13 crimes de guerre et 5 crimes contre l'humanité, dont meurtre, pillages, attaques contre des civils, viols et esclavages sexuels commis par ses troupes en 2002-2003 en Ituri, dans le nord-est de la République démocratique du Congo. Les conflits dans le nord-est de la RDC, qui ont impliqué les armées d'au moins 6 nations africaines dans cette région riche en minerais, ont entraîné des violences inouïes sur les civils, causant la mort de 3 millions de personnes selon les ONG, et créé une instabilité profonde dans l'est congolais.
L'armée nigériane a annoncé ce mercredi avoir libéré une ville sous contrôle du groupe djihadiste Boko Haram sur les berges du lac Tchad, dans le nord-est du pays, après des affrontements violents avec les combattants islamistes. D'après son porte-parole, Sani Ousmane, ses troupes, appuyées par la force d'intervention conjointe multinationale et un raid aérien, ont pris le contrôle de la ville de Malam Fatouri après des combats intenses. Les combattants de Boko Haram se sont ensuite repliés près de la frontière avec le Niger, a-t-il précisé. Selon lui, de nombreux combattants du groupe djihadiste ont été tués dans ces combats sans en spécifier le nombre. De son côté, Boko Haram affirme avoir tué plusieurs dizaines de soldats, selon un communiqué diffusé sur les réseaux sociaux.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba se dit prêt à rencontrer son rival Jean Ping, qui s'est proclamé élu au scrutin présidentiel du 27 août, afin que plus aucun Gabonais ne trouve la mort du fait de la crise post-électorale. C'est ce qu'a déclaré son porte-parole. M. Ping a saisi la Cour constitutionnelle le 8 septembre pour demander le recomptage des voix dans la province du Haut-Ogooué. Son adversaire Ali Bongo y a obtenu 95% des voix pour 99% de participation selon les résultats de la commission électorale. Ce score lui a permis de l'emporter sur l'ensemble du pays avec environ 5000 voix d'avance selon la CENAP. Leur proclamation le 31 août par le ministre de l'Intérieur avait déclenché des émeutes meurtrières et des pillages massifs. La Cour dispose d'un délai de 15 jours jusqu'à vendredi pour trancher, alors que les rumeurs évoquent un possible report de sa décision. Poursuite ce mercredi à New York de la 71e Assemblée générale de l'ONU. Le point avec notre envoyé spécial sur place, Timothée Donongmaï.
L'Afrique à l'honneur ce mercredi ici à New York avec la tenue du deuxième forum des affaires États-Unis-Afrique en marche de l'Assemblée générale. Ce sera l'occasion de mesurer le chemin parcouru 2 ans après le premier forum et de présenter les nouvelles possibilités d'investissement dans des secteurs comme l'énergie ou les infrastructures. Également à l'ordre du jour ce mercredi, un sommet sur le danger croissant de la résistance aux antimicrobiens. Les discussions doivent aboutir à l'élaboration d'un plan d'action international, d'autant plus que trop peu de nouveaux antimicrobiens, notamment les antibiotiques, sont mis sur le marché pour remplacer ceux qui ne sont plus efficaces. Rappelons que dans son dernier discours à l'ONU en tant que président mardi, le chef de l'exécutif américain Barack Obama a exhorté le monde à surmonter ses divisions. Il a par la suite présidé un sommet des leaders sur les réfugiés. Des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars y ont été pris pour un appui non seulement aux réfugiés et leur pays d'accueil, mais aussi leur pays d'origine. Timothée Donagmaï, New York, VOA Afrique.
La Syrie a replongé dans le conflit qui l'ensanglante depuis 5 ans après l'échec du dernier cessez-le-feu. Le ton est encore monté hier soir entre les Américains et les Russes. Cela suite à une frappe aérienne lundi près d'Alep contre un convoi humanitaire où beaucoup de civils et aussi beaucoup de volontaires avaient perdu la vie. Ce raid donc a coûté la vie à en tout 20 personnes et parmi les 20, il y avait un responsable du Croissant Rouge. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Je vous retrouve dans moins d'une heure pour un nouveau point sur l'actualité. N'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com et aussi notre page Facebook où vous pouvez laisser des commentaires mais aussi faire des suggestions. Moi, c'est Nani Talani. Bonne suite des programmes sur la voie de l'Amérique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.